la parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour, chers auditeurs. Dans le cadre du contexte inédit de la crise sanitaire vécue depuis le début de l'année 2020, la règle du travail à distance s'est imposée. Mais tous les métiers exercés ne permettent pas de télétravailler, notamment lorsqu'il s'agit d'assurer la continuité du service public. Ainsi, comment assurer le fonctionnement des services publics dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels? Mobilisation des agents pendant une période donnée? Organisation de roulement des équipes? Pour aborder toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Jade Colomba, qui a réalisé son mémoire de fin d'études sur ce sujet. Bonjour Jade.
Bonjour Frédéric.
Jade, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Avec plaisir. Alors du coup, comme vous venez de le dire, je m'appelle Jade Colomba. J'ai 23 ans et je suis en dernière année d'Institut d'études politiques, donc Sciences Po Rennes. Et je serai, si tout va bien, bientôt diplômée fin juin du master MOP, Management des organisations et des projets. Et j'effectue actuellement une alternance dans le monde assurantiel chez Colonna Group.
Parfait. Jade, vous êtes en cinquième année de sciences politiques. À qui s'adresse votre mémoire? Je rappelle à nos auditeurs que vous avez choisi comme sujet de fin d'études la gestion de crise à l'épreuve du coronavirus. Quelle méthode pour manager et assurer la continuité du service en période de crise sanitaire?
Alors, tout d'abord, le choix du sujet en lui-même, c'est un choix qui s'imposait tout seul, si je puis dire, à cause du contexte qui nous entoure depuis le début d'année 2020, qui a pesé sur nos vies de citoyens comme nos vies d'étudiants. Et donc, je suppose qu'inconsciemment, il a guidé mon choix de travail de fin d'études. À l'époque où j'ai commencé mon travail, où j'ai initié ma réflexion, on était en septembre 2020, donc à l'aube du deuxième confinement et du troisième confinement. Je me suis demandé comment avaient fait les organisations, en fait, qu'elles soient privées ou publiques, pendant le premier confinement de mars à mai 2020, qui était une période totalement inédite pour elles. Quelle méthode avait été développée pour assurer la continuité des activités, pour continuer à mettre au travail tous ces salariés et ces agents? On parlait beaucoup à l'époque de grandes réussites de certaines organisations qui avaient affronté la crise, mais quid des orgas qui n'avaient pas réussi ou qui peinaient encore à mettre en place des solutions de continuité? Je pensais notamment à l'époque aux PME, petites et moyennes entreprises, aux associations ou encore aux collectivités territoriales qui n'avaient en fait pas forcément eu le temps de capitaliser après la première vague virale, qui était trop focus sur le présent et qui certainement était en réel besoin d'expertise. Et donc c'est là que je me suis dit qu'il y avait un terrain quasiment d'utilité publique à exploiter, et je me suis dit qu'il serait utile pour tout le monde de développer à l'intention de tout type d'organisation, qu'elles soient publiques ou privées, surtout pour celles qui n'avaient pas forcément les moyens, un outil, une sorte de vade-mecum, comme vous dites, qui serait opérationnel, avec des solutions fiables, à suivre si besoin. Donc j'ai basé mon étude sur le fonctionnement de deux organisations, fonctionnement de crise, très différentes. Il s'agit d'Alliance Partner France, qui appartient au groupe Alliance, donc filiale du monde de l'assurance, et aussi sur la mairie de Nanterre, qui toutes deux ont réussi à surmonter la crise, mais avec des fonctionnements et des approches très différentes. Et donc, pourquoi une organisation publique et une organisation privée? Pour avoir un spectre le plus large possible d'organisation qui puisse intéresser tout type d'organisation.
Ah, parfait, merci beaucoup. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant tout, s'agissant des organisations publiques, quelle place pour le plan communal de sauvegarde dans ce contexte inédit?
Alors j'ai moi-même découvert le plan communal de sauvegarde cette année lors de mes recherches et de mes enquêtes de terrain. D'après mes échanges avec les responsables de la mairie de Nanterre, dont M. Gilles Smadja, qui est le directeur de cabinet, j'ai compris que c'était un formidable outil de gestion de crise pour les collectivités, notamment pour organiser une réponse en matière de sécurité civile. Les PCS ont eu leur rôle à jouer pour organiser des actions de grande ampleur et mobiliser l'espace public. Je m'appuie par exemple sur la mairie de Nanterre, grâce à cet outil, ils ont pu mettre en place des centres de tests et de prise en charge Covid à grande échelle pour leurs citoyens, mais aussi pour les agents de la mairie. Toutefois, les PCS demeurent incomplets, d'abord parce que pour qu'ils soient opérationnels, il faut qu'ils soient mis à jour, et trop peu de ces PCS étaient mis à jour avant la crise. En fait, seulement 40% des collectivités avaient un PCS opérationnel au moment où la crise a éclaté en début 2020. Et ensuite, ils sont incomplets parce que, je l'ai découvert, ils ne sont pas suffisants pour organiser la réponse en termes de ressources humaines et de management face à la crise. En bref, ils ne sont pas vraiment un outil de gestion de crise en interne. Quand on pense aux collectivités comme une organisation à part entière, ils ne préparent pas vraiment les questions de continuité des services ou de l'administration. Et c'est là qu'on voit l'utilité d'accoler un PCS à ce qu'on appelle un PCA, donc un plan de continuité des activités, qui lui est vraiment un outil managérial RH, qui est un outil stratégique pour planifier, modéliser les types de crises en amont et préparer des réponses type des déploiements de solutions de continuité qui correspondraient à la crise qui arrive. Donc c'est une idée de plus en plus acceptée par les collectivités. Si seulement 31% d'entre elles avaient un PCA avant la crise, eh bien c'est un outil qui va se développer et qui doit se développer.
D'accord. Alors je sais que lors de la première crise, enfin pendant la crise sanitaire, lors du premier confinement, je sais que beaucoup de collectivités et d'entreprises ont mis leurs salariés, pour les protéger évidemment, en travail à distance. Il me semble que c'est un petit peu un travail à distance, je dirais, contraint, sans qu'ils soient préparés. Qu'en est-il ?
Alors, le télétravail, évidemment, est une solution efficace à partir du moment où elle est consentie. Évidemment, comme vous le dites, pendant la crise, ça n'était pas consenti, c'était une solution d'urgence. Du coup, beaucoup de télétravailleurs ont dû faire face à pas mal de situations négatives qui sont liées au télétravail, notamment l'imbrication de la vie privée et de la vie professionnelle. Je retiens celle-là parce que c'est la plus importante. Et pour les prochaines crises qui viendront, tous les soucis qu'on a pu rencontrer, il faut capitaliser dessus et il faut absolument qu'on puisse être en mesure d'apporter des réponses pour pas que ça se reproduise et pour que toutes les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, puissent être plus efficaces, notamment en termes de management, d'accompagnement d'équipe et surtout en termes d'organisation du travail pour éviter tous les possibles burn-out.
Oui. Alors, s'agissant de la continuité des activités, je pense toujours au télétravail, au travail à distance. Vous parlez, je vous cite, d'organisation hybride du travail, à savoir une combinaison du travail en présentiel et du télétravail. Est-ce que vous pourriez développer ce point, s'il vous plaît ?
Oui, tout à fait. Les différents confinements que l'on a vécu, que ce soit le premier, le deuxième ou le dernier en date, au printemps 2021, l'ont montré. En période de crise sanitaire, le télétravail à 100% est l'une des solutions qui marche le mieux. Encore faut-il, comme on l'a vu, qu'il soit consenti. Parce que notamment, c'est une forme d'organisation du travail très sécurisée, comme les collaborateurs sont chez eux, ils ne se transmettent pas le virus. Encore faut-il que le télétravail à 100% soit faisable pour les organisations en termes de matériel. Il faut que tout le monde soit équipé, que ce soit d'un poste de travail ou encore d'une clé VPN pour accéder au réseau de l'entreprise. Que les personnes soient formées à travailler à distance et qu'elles puissent travailler en équipe quand même elles ne se voient pas. Que les méthodes de management soient adaptées et enfin, surtout, que les activités soient transférables à distance. Sinon, ce n'est pas possible de mettre en place une telle solution de continuité des activités. Le problème, c'est qu'avec beaucoup de structures, notamment les collectivités, on voit qu'elles n'étaient pas prêtes, ni au premier ni au deuxième confinement, à adopter une solution de type 100% télétravail. C'est pour ça que dans mon travail de fin d'études, j'ai réfléchi à un autre type de solution, avec l'exemple notamment de la mairie de Nanterre, qui n'avait pas forcément les ressources ni humaines ni physiques pour mettre en place une telle solution télétravail à 100%. Donc j'ai réfléchi à quelque chose de plus pragmatique, plus adapté aux organisations, et c'est là que j'en suis venue à la notion d'hybridation. En gros, en fonction des ressources internes du domaine d'activité de l'organisation et surtout des services critiques à maintenir à flot, l'idée est qu'une organisation puisse opter pour une alternance entre les modes présentiels et distanciels, que ça gère un roulement d'équipe, c'est-à-dire qu'en semaine A, certaines équipes sont à distance et en semaine B, certaines équipes seraient sur site, ou alors de deux équipes bien distinctes, une sur site et une à distance, comme l'a fait la mairie de Nanterre au début de la crise. Sur site, les agents plus opérationnels qui devaient être au contact des populations et qui ne pouvaient pas faire leur travail à distance. Et à distance, des équipes plus comme la DG, par exemple, qui se doivent d'assurer des missions de gouvernance, mais qui peuvent tout à fait se faire à la maison. Et donc chacun peut y trouver son compte. Même si ça n'avait pas été théorisé, en fait, cette notion d'hybridation a été mise en place par beaucoup de structures de facto. Et le seul enjeu, en fait, à prendre en compte avec cette solution de continuité, c'est celui de pouvoir garantir l'équité entre les collaborateurs, parce que c'est vraiment ça le danger. c'est de pouvoir offrir l'accès le plus égalitaire possible au télétravail, en fait, surtout quand on pense aux agents qui doivent rester sur site. Sinon, ce type de solution est vecteur de tensions importantes.
Oui. Alors, quelles leçons tirer de la gestion de cette crise ? Vous invitez, me semble-t-il, à repenser la gestion des activités sur un cycle long. Tout à l'heure, on avait parlé des collectivités ou du privé non préparé, donc une notion de temporalité, extrêmement prégnante. Donc, qu'entendez-vous par repenser la gestion des activités sur un cycle long ?
En fait, la gestion de crise doit se faire sur plusieurs temps, comme vous dites. Alors, pour surmonter la crise sanitaire, il y a évidemment des solutions de continuité de court terme, qui sont celles que j'ai développées dans la première partie de mon vademécum. Par exemple, l'hybridation des modes de travail en fait partie. Mais la gestion de crise et la culture de la résilience des organisations, je l'ai compris cette année, se fait sur le temps long. Et dès maintenant, et surtout quand la crise sera derrière nous, il faudra capitaliser, il faudra améliorer certains process et surtout accueillir les transitions qui ont été initiées par la crise pour préparer les crises futures en amont. En fait, il faut que les services des ressources humaines, que les employeurs ou même les membres de la gouvernance prennent vraiment conscience de cette nécessité. Entre autres, il sera question de mettre en place une vraie culture du risque, notamment de mettre en place des outils tels que les PCA, les plans de continuité des activités. Il sera aussi question d'accompagner les changements managériaux, numériques, organisationnels, pour éviter tout choc négatif possible à la prochaine crise, notamment liée au télétravail. Et enfin, il faudra s'initier aux nouvelles méthodes dites agiles, des méthodes plus souples de gestion de projet et de gestion du travail en général, qui sont en fait les méthodes les plus efficaces en termes de crise et surtout lorsque les travailleurs sont à distance.
Oui, donc je vous remercie vivement Jade. Nos auditeurs pourront télécharger tous vos travaux et avoir ainsi un document de travail extrêmement intéressant. Néanmoins, j'aurais une dernière question pour mettre l'eau à la bouche justement et terminer notre entretien. Quelles préconisations concrètes et efficaces proposez-vous ?
Alors, je terminerai avec quelques préconisations à la portée de toute organisation, qu'elle soit privée, publique, grande, petite. Tout d'abord, s'appuyer sur ses collaborateurs. Et ce sont les premières ressources des organisations. On a vu que les collaborateurs et puis les ressources humaines en général sont une source de continuité formidable, de solidarité, d'entraide, de volontariat. Et il faut vraiment cultiver et chercher à cultiver cette source de résilience interne en favorisant l'engagement salarial, par exemple grâce au développement d'une culture de la confiance envers les salariés plus importante. Ensuite, deuxième préconisation, il s'agit, très important cette fois, d'améliorer la qualité du matériel informatique, des réseaux et plus globalement des systèmes d'information. La crise a montré, comme dans les stratégies de télétravail par exemple, l'aspect informatique et digital sont vraiment primordiaux. Et dans les collectivités d'autant plus, il faudra développer dans les mois et les années à venir cet aspect logistique et technique. Rien que par exemple l'accès aux logiciels professionnels à distance, de façon à rendre vraiment le télétravail possible, accessible et efficace pour une majorité d'agents. Et enfin, un focus sur le management. En période de crise, il faut revoir les techniques de management pour être plus souple, plus agile et favoriser les initiatives qui viennent du bas, les initiatives bottom-up. Et prendre de la distance parfois avec certains process administratifs lourds, traditionnels, pour permettre en fait l'action au jour le jour et surtout limiter l'angoisse et le stress.
Merci beaucoup Jade. Merci de votre témoignage et regard porté sur ces questions. Bien entendu, on vous souhaite plein succès pour votre soutenance au mois de juin. Bien entendu.
Merci.
Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.